métier est très gentil. Oh, la jolie foire qu'on vient de faire jusqu'au petit matin. Nous savons même en faire à boire au bout qui procède. Et en tapant bas dans les poubelles, on s'est mis à chanter. On nous a jeté des seaux d'eau, on a répliqué aussitôt. Quand police secours est arrivé, on nous a tous embarqués. En permettez, on n'a rien fait. Oh la jolie foire qu'on vient de faire. Des cochons, c'est ça n'a rien arrangé.
Brassens, je le vois de temps en temps dans un couloir, bonjour, etc. C'est un type très gentil, Brassens. Je ne le vois jamais, on ne se connaît pas. J'aimerais bien le voir de temps en temps, qu'on mange ensemble, tous les deux, seuls. Morel, qui a beaucoup de talent aussi, lui, c'est fini, il chante plus. Enfin. Je crois. Et j'aimerais bien aussi, honnête. Il n'y en a pas beaucoup d'autres avec qui je voudrais comme ça vivre un peu, comme ça, en dehors de la chanson. Mais simplement, j'aimerais bien les rencontrer de temps en temps. Puis j'aimerais bien être l'ami de Brassens. Je lui dis, là, s'il m'entend. Viens boire un pot avec moi dans le Lot, ça ferait plaisir.
Radio Liberté 89.4.
Mercredi, 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire,
connaissez-vous cette photo? Est-ce que vous l'avez regardée? Est-ce que vous l'avez aperçue? Est-ce que vous la découvrez? Vous l'avez questionnée? Peut-être l'avez-vous chez vous? Cette photo, Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré dans le vif d'une conversation animée. Jacques Brel écoute avec attention Georges Brassens qui raconte quelque chose, la pipe à la main. Léo Ferré au centre, sourit, attentif aux mots de Georges. De quoi Georges Brassens parle-t-il avec autant de passion? Qu'est-ce qui les réunit là tous les trois? Se sont-ils réunis pour défendre une cause humaine? Est-ce une conférence de presse? Une émission de radio? Le lancement d'un nouveau magazine? Pourquoi cette photo de poster ou carte postale est-elle devenue mythique? Leur présence à tous les trois dans un même lieu est-elle tellement exceptionnelle, emblématique? Est-ce l'unique trace de leur rencontre? Est-ce leur unique rencontre?
Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette rencontre, une rencontre au sommet de trois grands chanteurs français quand même? C'est parce que, à mon avis, 69 risque quand même d'être une année où Brassens, Brel, Ferré, si on veut respecter l'ordre alphabétique. Parce que Brassens, d'abord, sort d'une maladie qu'il tenaille depuis 2 ans. En outre, je crois qu'en octobre, vous vous installez pour 3 mois à Bobino.
Oui, si...
Tout va bien.
Si Esculape me prête vie.
Oui. C'est ça. Jacques Brel, d'autre part, parce qu'il est en train d'abattre un préjugé, un moulin de plus, celui de l'impossibilité pour une comédie musicale d'avoir du succès en France, et je crois que l'homme de la Manche est en train de le prouver. Et enfin Léo Ferré, parce qu'il vient de s'installer pour un mois à Bobino. Et d'ailleurs, il a tellement de choses à dire et à chanter depuis mai qu'il assumera lui-même les deux parties du spectacle.
J'étais jeune journaliste pigiste à Rock and Folk et l'envie d'interviewer Brel, Brassens. Bon, je sais pas, un soir je rentre à la maison, j'en parle à ma femme et elle me dit bah, et Léo et Ferré, alors ah, mais oui, tu as raison, ça sera oui, alors on va essayer, oui, tu as bien raison, Brel, Brassens, Ferré. C'est vrai qu'on avait vu en mai 68, puisqu'on est peu de temps après mai 68, des récitals de Ferré quasi insurrectionnels au Quartier Latin, et Léo, moi j'avais beaucoup sympathisé avec lui, et en effet, ce fut le premier à qui. J'ai évoqué l'idée de cette rencontre, et il a été absolument tout de suite emballé. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suspecterais quelqu'un qui organise un tel sommet à trois de chercher à faire un coup. Et alors, en réalité, dans la naïveté de mes 24 ans à l'époque, moi, je ne cherchais pas à faire un coup, je cherchais à écrire pour Rock and Folk, à proposer des sujets à Rock and Folk. J'étais devenu, à travers le jazz et le festival de jazz d'Antibes, très très ami avec Philippe Quéclin, l'extraordinaire directeur de la rédaction de Rock and Folk, qui n'avait que 2 ans d'âge. Hein. Et donc j'en parle à Philippe. C'est l'un des rares à pas me rire au nez. Et il me dit, écoute, ça paraît un peu de, oui, dément, quoi. Mais en tout cas, si tu y arrives, tu as la une.
Arrivé à 8h15, j'ai grillé une sèche en lisant le courrier dans cette loge d'artistes où s'arrête la gloire, le temps de se refaire une petite beauté. Regarde-moi bien, je suis une idole. J'ai passé mes joues au fil du rasoir. Quand on vend sa gueule sous des projecteurs, on peut pas se permettre d'avoir les cheveux noirs et une barbe toute blanche, même pour 3/4 d'heure. J'ai mis mes souliers, tantôt bottillon, tantôt mocassin, ça dépend des fois. Et quand t'as marché entre 2 chansons, j'irai bien pieds nus seulement, ça se fait pas. Regarde-moi bien, je suis une idole. Si j'ai fait mes yeux, c'est pour agrandir les 2 petits quinquets que maman m'a donnés. Je les voudrais bien verts, d'ailleurs je le fais dire, mais ils sont châtains. En réalité, j'ai mis mon costume sorti du pressing, ce vestiaire anglais où on lave même le spleen. Un chanteur qui chante la révolution, sa planque, sa cravate, sa mèle, col d'anton. Regarde-moi bien, je suis une idole. J'ai bronzé ma gueule d'un vieux fond de soleil qu'on me refile en tube chez mon parfumeur. Et quand je fous mes codes sous l'arc des merveilles, on voit des canaux qu'on prend pour des pleurs. Quand tout est fini, le rideau baissé, et que j'entends mourir la rumeur complice, et qu'il n'y a plus rien qu'un silence armé par tant de passants sous tant de coulisses. Regarde-moi bien, tu es une idole. Celui que je rencontre les matins civils quand je me prends pour moi, celui que l'on voit, celui que l'on montre à je ne sais plus qui, pour je ne sais plus quoi. Et je m'en vais souper, traqué dans un coin avec mes copains sur mon addition, en rasant les tables, en me cachant des mains, en disant tout bas la fin de ma chanson. Regardez moi bien, je suis qu'un artiste.
que Brel et Brassens, indiscutablement, se connaissaient bien, mais et que Ferré, qui était en effet très demandeur de rencontrer les deux autres comme ça autour d'une table décontractée, était ravi d'être avec eux. Voilà. Hein, c'est je crois qu'il dit, bien, c'est son cœur qui parle, je crois, au début, quand il dit tout simplement, moi, j'ai l'impression d'être avec deux copains, voilà. Pour lui, c'était des copains lointains, il n'était pas forcément en grande familiarité avec eux, mais il était ravi, et moi, j'étais ravi aussi. Mais j'ai traversé ça, et dans mon souvenir, près de 40 ans après, j'ai traversé ça sur une espèce de nuage, quoi, finalement. Hein. J'ai traversé ça dans un nuage. J'avais, de manière assez scolaire, préparé un certain nombre de questions, de thèmes. Bon, les grands thèmes éternels, hein, qui inspirent les poètes et les chanteurs, voilà. Et moi, je trouve qu'ils ont été avec moi d'abord d'une gentillesse absolument étonnante et confondante. Et je trouve qu'ils ont joué le jeu au-delà de même ce que j'envisageais ou ce que j'osais imaginer.
Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenu des adultes ?
Aïe, aïe, aïe.
Moi, non.
Ah, moi non plus.
Je réponds pour...
Non, on n'est pas, pas.
Non, on est tous un peu demeurés.
Regardez. Ouais. Et heureusement.
D'ailleurs, pour faire ça, il faut être ou une femme ou un enfant.
Voilà, il a raison.
Écoutez, pour devenir adulte, voilà, il faut quand même faire son service militaire. Il faut se marier après. Il faut avoir des enfants. Vous me direz qu'il y en a parmi nous.
Bah, ouais, j'ai fait mon service militaire.
Oui. Il faut embrasser une carrière, il faut la suivre, il faut monter en grade, il faut prendre. C'est comme ça qu'on devient adulte. Mais nous autres, nous avons quand même mené une espèce de vie en marge de la vie normale, un peu en dehors de la vie réelle.
Parce que vous n'avez pas voulu finalement non, vous adapter au système traditionnel.
Qu'on n'a pas voulu, c'était notre caractère de ne pas s'y adapter, oui, voilà tout. Ouais. On ne l'a pas fait exprès. Il n'y a pas de vantardise quand on dit qu'on est solitaire ou quand on dit qu'on est... On est comme ça.
Puis ça rejoint le poète, l'enfant poète. Quand Brel chante sans rire et que c'est comme ça et qu'il y croit, j'allumerai ma guitare, on se croira espagnol, il n'y a qu'un gosse qui peut dire ça.
Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça, bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois-quarts putain t'a claqué dans les mains. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu fais honte à voir. Les gens se peignent nos têtes, foutons le camp de ce trottoir. Viens, viens, viens. Viens, il me reste trois sous, on va laisser les boire, j'ai la mère Françoise. Viens, j'ai, viens, viens. Il me reste trois sous, et si c'est pas assez, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites et puis des moules et du vin de Moselle. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la madame André, paraît qu'il y en a de nouvelles. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était jeune, Jeff, comme quand c'était le temps où que j'avais de l'argent. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête tes grimaces. Soulève tes 100 kilos. Fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de sangloter. Arrête de te répandre. Arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau. Que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul, mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens, viens, Jeff, viens. Viens, il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi et on sera espagnol. Jeff, viens, viens. Comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça, tu imiteras le rossignol. Puis on se trouvera un banc, on parlera de l'Amérique. Où c'est qu'on va aller, tu sais, quand on aura du fric, Jeff. Et si t'es encore triste, ou rien que si t'en as l'air, je te raconterai comment tu deviendras Rockefeller. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était beau, Jeff, comme quand c'était le temps d'avant, qu'on soit poivreau. Allez, viens, viens, ouais, ouais, Jeff, ouais, viens, Jeff, viens, viens, viens.
Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, ils sont là, mais oui, tous les trois ensemble, ce lundi après-midi, 6 janvier de l'année 1969, dans le salon d'un appartement du 6e arrondissement de Paris. Leur seule et unique rencontre à trois, montée pour un mensuel de rock et de chansons. Sur la table, de la bière, des cigarettes, du tabac à pipe, un gros cendrier et quatre micros. Cette rencontre de géants a été enregistrée, puis diffusé pour partie en 1969. Pour la première fois, nous vous proposons l'intégralité de ce document unique, de ces propos d'hommes et de poètes, bien dans leur époque, la fin des années 70, 7 mois auparavant, c'est mai 1968, Léo Ferré a 52 ans, Brassens 47, Brel 39. C'est Léo Ferré que j'avais le premier convaincu de l'intérêt de ce sommet, puis j'avais abordé Brel, et Brassens, par petites touches, l'un dans le studio où il enregistrait la bière, l'autre dans les coulisses d'une salle de province. Et je leur avais écrit, téléphoné, écrit encore, une première date, puis une seconde avait été envisagée, la troisième fut la bonne. Et ils étaient là, autour des micros, pour une rencontre à la Bonne Franquette, ces trois géants de la chanson, tous les trois publiés dans une grande collection de l'époque, les poètes d'aujourd'hui.
Cet entretien destiné à Rock et Folk, il est vrai, a été enregistré un peu in extremis en dernière seconde, parce que à l'époque, moi, je venais de rentrer comme petit assistant de production à RTL. Ça ne les avait pas beaucoup intéressés au départ. D'ailleurs, ils croyaient même pas que ça se ferait. Et à la dernière seconde, finalement, les gens d'RTL ont dit ben pourquoi pas, finalement, on va peut-être mettre quelques micros et puis on diffusera ça dans la semaine. Voilà. Alors c'est vrai que, du coup, comme ça s'est fait de manière un peu précipitée, moi j'ai eu du mal à les joindre et à les prévenir de ça. Donc ils sont arrivés, ils ont un peu découvert qu'il y avait des micros, mais ils n'ont finalement rien dit. Et puis bon, ils m'auraient dit non, on les aura enlevés, c'est évident.
Alors test record, ok, playback, voilà. Donc moi je le démarre. Et après, je te stoppe. D'accord.
Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous êtes conscient du fait que vous représentez tous les trois plus grands poètes, les trois plus grands auteurs, compositeurs, interprètes de la chanson française. Et ceci depuis des années, et avec le même succès.
Si vous permettez, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis conscient. Ferré, oui. Moi, personnellement aussi, aujourd'hui, je suis conscient d'être avec deux de mes confrères, d'abord. J'ai dit confrères, qui ont un immense talent. Et puis, d'être pour... Je crois que ça commence aujourd'hui, et puis j'ai des idées derrière la tête, d'être avec deux copains. Et ça, il y a longtemps que je le veux.
Et vous êtes quand même tous les trois dans la collection Les Poètes d'aujourd'hui. C'est un fait, vous ne pouvez pas le nier.
Oui, mais enfin, ça, on n'est pas les seuls.
Oui.
Et puis, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, vous savez, cette façon de compartimenter.
Je sais, bien sûr.
Je sais pas.
Vous ne vous prenez pas pour un poète, alors, Georges Brassens?
Pas tellement, non.
Non.
J'ai écrit mes chansons, on a déclaré que j'étais un poète, moi je fais des chansons. Je ne sais pas si je suis poète, il est possible que je le sois un petit peu, mais enfin, peu m'importe, je chante. Mm-hmm. Je mélange des paroles et de la musique, et puis je les chante. C'est pas tout à fait pareil, quand même.
Mais Jacques Brel a une idée, je crois, là-dessus aussi. Lui aussi se défend d'être un poète.
Oui, je suis chansonnier.
Vous avez dit que vous étiez un petit artisan de la chanson.
Je suis un artisan de la chanson.
C'est ça.
Il me faut rire, pas parce que je sais bien qu'ils savent qu'ils sont des poètes. Je sais bien. C'est évident. Quoi, que c'est d'une telle évidence, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement somptueux, c'est tellement fort. Voilà. Donc, la preuve en est qu'on court toujours après. Je sais pas ce que tu en penses, toi.
Moi, je trouve qu'ils ont raison tous les trois. Chacun à leur manière, c'est...
Oui, mais cela dit, moi, tu ne m'empêcheras pas de ne pas les croire complètement. Il y a quand même des musiques magnifiques, et il y a quand même des paroles magnifiques.
Oui, mais ça reste des chansons.
Ah oui, ça, j'entends Gainsbourg.
Oui.
Serge. Oui. Oui, ben, ceux qui les font ont le droit de dire ça. Mais nous qui les écoutons, nous qui les mangeons, nous qui les digérons, nous qui les servons, on sait bien que c'est exceptionnellement beau et que ce sont des œuvres d'art.
Bonjour Rebecca Manzoni.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous.
Georges Brassens est à l'affiche de Tubenco ce matin et c'est Lino Ventura qui choisit le titre de la chanson.
Alors je ne sais pas si vous l'avez programmé. Rebecca.
Non, pas du tout alors là.
Bon, alors vous allez me chanter Les Passantes.
Aïe.
Les Passantes dans... Le Grand Échiquier, une émission avec des hommes en soupule et veston. Là, ça rigolait, mais Brassens déjà concentré, non.
Je crois que c'est en la mineure, tout va bien.
Les passantes, combien se sont reconnues en elles? Combien se sont reconnues dans ces hommes, comme Lino Ventura ou Georges Brassens, qui les ont aimées, elles?
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais.
Le père de Brassens était maçon et Georges disait construire ses chansons comme on construit des maisons. Celle-ci lui a pris 30 ans. 30 ans qu'il vivait avec ce poème, découvert chez un bouquiniste un jour de 1942 et enregistré en 1972. Grâce à Brassens, on peut en prononcer le nom de l'auteur aujourd'hui encore, Antoine Paul. Et Brassens confiait...
Ce poème des passantes, c'est comme s'il me l'avait pris, parce que c'est ce que j'ai vécu. Son regard admirable sur les femmes reste pour moi le plus grand poème de ma vie.
À la campagne de voyage, dont les yeux, charmants paysages, font paraître pour le chemin.
En 1972, les femmes lèvent le poing. Le MLF existe depuis 2 ans et Brassens a enfin trouvé la mélodie pour chanter toutes les femmes. Tous ces amours inaboutis, dont on sait qu'ils peuvent laisser une trace toute une vie. Brassens s'accompagne à la guitare, comme d'hab, mais elle sonne ici comme un filet d'eau. Et ensuite, entre celle de Joël Favreau, qui donne l'impression de trouver les notes dans l'instant. Et puis le début de Brassens, celui d'un gars pour qui chanter n'était pas prévu, aucun effet, que de la pudeur, et cette scansion familière que tous les paternels de France ont imité en conduisant, avec les mômes calés sur la banquette arrière.
Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin.
Cette scansion à nul autre pareil est enveloppée dans la courbe d'un ruban. C'est Pierre-Nicolas qui joue de la contrebasse avec l'archet. Brassens voulait peu d'arrangements pour ses chansons, considérant que...
Quand on chante pour les copains, un orchestre n'est pas planqué dans le placard.
Au baiser qu'on n'osa pas prendre, au cœur qui doivent vous attendre, aux yeux... qu'on n'a jamais revu.
En 2018, Charlotte Abramoff, vidéaste de 25 ans et notamment réalisatrice des premiers clips d'Angèle, utilise Les Passantes. Et la voix de Brassens, disparue il y a 50 ans, est associée au visage de cette fin des années 2010 pour la Journée internationale des droits des femmes. La rareté de ces mots clairs dans le brouhaha ambiant. Les Passantes est une chanson qui fut traduite en 18 langues.
On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez fait de votre premier cachet?
Le bouffé, je crois.
Mais alors le succès que vous avez connu par la suite, l'argent que vous avez gagné grâce à lui, ont-ils modifié vos rapports avec les gens d'une façon générale?
L'argent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'indépendance absolue.
Oui.
Eh bien, c'est important. Ça coûte cher, l'indépendance. Vous comprenez?
Oui.
Très emmerdant cette histoire d'argent, parce qu'il y a beaucoup de types qui se lancent dans la chanson pour ça. Nous, on était très contents de gagner notre vie avec nos petites chansonnettes. C'est une affaire entendue, mais on n'a pas fait ça dans cette intention. On a fait ça parce que ça nous plaisait. Ça ne nous rapporterait rien qu'on le ferait quand même. Vous savez, on ne vendrait pas des sardines à l'huile. Je ne sais pas si ça rapporte. On ne vendrait pas des sardines à l'huile si ça rapportait plus que de faire des chansons. Si on était payé comme un fonctionnaire pour faire ce qu'on fait, on continuerait à le faire quand même. Je pense qu'on aime ça. On n'a pas fait ça pour ça, et depuis quelques années, justement, on entend parler que de cachets mirifiques, tout ça. Et ça, il y a des tas de types qui se lancent dans cette aventure et qui se cassent les dents.
Parce qu'ils en font une aventure
financière,
à cause de ça,
en fait.
Oui. Avez-vous la hantise de devenir de vieux chanteurs?
En ce qui nous concerne, avec Ferré, l'autre est plus jeune que nous, là, mais on approche de la cinquantaine, quoi, tranquillement.
Oui.
Alors, 50 ans pour un type de vie, même pour vous, c'est un vieux, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Toute fin est pénible, tout ce qui finit est triste. C'était rare que les choses finissent quand même bien. C'est toujours triste, quoi, de vieillir, bien sûr, et puis de plus faire ce qu'on aimait faire, ce qu'on savait faire.
La mort, on y pense tous les jours.
C'est un de nos sujets favoris, forcément, on est obligé d'y penser.
La chanson,
il n'y a pas 36 sujets, vous savez.
La dernière chanson de Georges sur la mort avant la mort. Justement, mais c'est pas triste.
Non, c'est jamais triste.
Je te signale que je m'en fous d'être enterré sur la plage de Sète. Hein, c'est complètement égal. J'ai fait ça pour m'amuser, quoi, pour aller au bain de mer.
Et Brel aussi, il est pas obsédé, mais il pense à la mort tout le temps.
Mais ça n'est pas douloureux, enfin.
Pas du tout.
Hein. Et puis, dès qu'on écrit quelque chose, ça va être obligé de se rencontrer la mort.
Il vient de le dire très bien, parce qu'il vient de dire, quand on écrit, on est obligé de rencontrer la mort. Très beau, c'est là.
Quelle place tient la femme dans votre vie? Oh.
Ah, c'est une autre histoire. Je crois qu'on a tous les trois répondu.
En riant, oui.
Oh ben, la femme, c'est un être charmant, quoi, quand elle s'en donne la peine. Et pénible quand elle s'en donnait la peine.
Moi, je crois que la femme, c'est quelque chose qui se donne de toute façon et toujours beaucoup de peine.
Qu'est-ce que vous appréciez chez une femme?
Ça dépend de ce qu'on attend des femmes, quoi.
Oui, justement. Alors, qu'en
ce qu'on espère ou ce qu'on redoute.
Qu'en attendez-vous, qu'en espérez-vous, qu'en redoutez-vous?
Ça dépend du moment et des femmes, jours. Je crois que c'est tout simple. Quoi, un type rencontre une femme, il est amoureux d'elle, ça dure 2 mois, ça dure 2 ans, ça dure 20 ans, et puis c'est tout, quoi. C'est comme pour tout le monde. Je crois que là, c'est pareil aussi, vous savez.
Mais est-ce que vous pensez qu'elle est capable d'apporter quelque chose d'important à l'homme, l'équilibre, par exemple?
Non.
Pourquoi?
Je pense que nous trois, nous sommes des types qui pouvons, sur ce plan-là, nous passer de femme. Sur un autre plan, non.
Sur ce plan,
on a besoin de personne.
Plan d'équilibre, de l'équilibre.
Bien sûr. A-t-on besoin tellement d'équilibre, d'ailleurs, peut-être même si nous n'en avons pas besoin.
Voir, oui, bien sûr.
Non, une femme peut être emmerdante, une femme peut être charmante, ça dépend desquelles, ça, vous savez. Oui. La femme en général, ça, c'est une autre histoire. J'y crois pas, moi, de nouveau, c'est encore le truc, je répète toujours le même truc, ça dépend de la femme à laquelle tu as affaire. Voilà. Ça dépend de sa nature, de son caractère, des atomes crochus qu'on a avec elle, ça. Oui.
Mais Léo Ferré est beaucoup plus catégorique. Il répond non.
Non.
Pourquoi?
Enfin, moi, par galanterie, je ne serais pas tout à fait de son avis, mais uniquement par galanterie, quoi. J'ai jamais été tellement emmerdé par des femmes, du reste. Non.
Vous ne l'avez pas supporté?
Non, c'est pas ça, non.
Parce que la femme n'a de cesse que n'arrive après la fin de l'amour, c'est-à-dire la tendresse. La tendresse, c'est ce bâtard de l'amour insoutenable qui fout tout par terre et qui moi me rend encore plus seul que tout, vous comprenez? La tendresse, c'est la fin du monde, quoi. C'est parce que ça prend.
C'est une lâcheté?
Non, parce qu'on est chocolat, moi, quelqu'un qui est tendre, je suis marron, vous comprenez? Si je suis marron, je suis un esclave. Et si je suis un esclave, je suis plus un homme. Puis, c'est tout, vous
Ouais. On n'a pas le droit de se foutre dans les pattes d'une bonne femme qui vous tient en laisse. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout.
Ah ouais?
Voilà. Moi, je suis trop jeune pour parler de tout ça. Je pense que les femmes, c'est comme pour vous, quoi. Ça dépend de celles qu'on rencontre, non? Je sais pas s'il faut quand même mettre tout le monde dans le même panier. Ça dépend des femmes que l'on peut rencontrer. Je crois que sur le plan, sur ce que nous faisons, nous n'avons pas tellement besoin. Nous avons besoin des femmes comme tous les autres, d'ailleurs. Vous savez très bien pourquoi on a bien besoin sûr. Des femmes. Alors, il faut pas
faire
dissimuler
le marché.
Les choses.
Vous savez, là, nous aurons, les anarchistes disent pas ma femme. Ma femme, c'est quelque
ma
chose
compagne.
Comme ma pipe.
Ouais.
Pas, ma compagne. Ma je trouve compagne. Ça très noble, n'est-ce pas? Ma compagne, c'est quelque chose de fraternel, quelque chose d'égal. Ma femme, c'est possessif, quoi. C'est comme mon mari. C'est possessif aussi.
Donc, ça, c'est
quoi.
Bien plus possessif que
ah,
ma femme.
Absolument, c'est encore plus.
Ça,
tu parles.
Moi, j'ai une idée, oui.
Laquelle? Je sais pas, je leur dis ça à tous les deux, mais je voudrais qu'un jour, ce serait extraordinaire, qu'on choisisse les 10 plus grandes salles de France, tous les trois, qu'on choisisse chacun 12 chansons et qu'on fasse, s'il faut, à parade, et puis qu'on rentre et qu'on vienne sur la scène. Brassens, c'est une chanson. Il s'en va, puis Brel, puis moi, puis Brel, puis Brassens, puis moi, pendant 2 heures. Voilà. C'est une idée de fou que j'ai.
C'est assez fou. Donc j'aime assez.
C'est oui, c'est fou.
Bon, c'est pas une mauvaise idée, mais enfin tu risquerais d'emmerder les gens qui voudraient avoir d'autres aussi.
Non.
Parce que pourquoi nous trois, tu comprends?
Parce que les gens seraient contents. Et parce que nous trois, enfin, un petit syndicat comme ça. Voilà.
Ah, on y vient.
C'est quelque chose de fraternel que je dis en ce moment, évidemment, ça n'a
ouais,
rien
ben
à
on
voir.
Peut le faire,
oui.
Un jour,
oui.
On n'a rien bon.
Ouais, j'aimerais bien.
Enfin,
et sans qu'aucune idée d'argent soit attachée derrière la tête, ça c'est sûr, de toute façon. Quoi. Donc, c'est un truc comme ça, quoi, ça me plairait beaucoup.
Ben ça, on pourrait faire ça à l'occasion d'un truc, mais faire ça tous les jours, je ne sais pas si
non, c'est... Non, 2-3 fois.
Quoi. C'est faisable, quand même.
Ce serait pas mal.
Se barre devant la pierre allemande. Quand je nous y revois, des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois.
Richard, ça va?
Si les copains cassaient leur âme à temps pressé, le citron de la nuit dans les brumes pernaux. Si les filles prenaient le temps de dire un mot à cette nuit qui les tenait, qui les berçait.
Richard.
Cette nuit, comme une sœur de charité, longue robe traînant sur leurs pas de bravade, caressant de l'ourlet les pâles camarades qui venaient pour parler de rien ou d'amitié.
Richard. Ça va?
avons eu nos nuits comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar devant la bière allemande. Quand je nous y revois, des fois, je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois.
Richard ! Hé ! Richard ! Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'hommes, simplement des problèmes de mélancolie. Alors, on boit un verre en regardant loin, derrière la glace du comptoir. Et on se dit qu'il est bien tard, qu'il est bien tard. Richard, encore un petit pour la route. Richard, encore un petit, vite fait. Hé, monsieur Richard, le dernier.
C'est un beau moment, c'est une belle photo. C'est pas tellement plus, parce que l'échange qu'ils ont est d'une bonne hauteur, d'un bon niveau. Mais il y a des affinités relatives entre eux. Brel, Ferré, ça colle pas, pour dire les choses clairement. Ils sont dans des univers assez différents, ils ont des égos qui s'entrechoquent, c'est pas ça. Avec Brassens, oui, il y a des points de rencontre.
Il aurait bien voulu que Brassens vienne ici, parce qu'on fait de l'huile d'olive, et puis Brassens, il avait des problèmes de colite ou je sais pas quoi.
L'huile d'ici, c'est une huile vierge extraordinaire, c'est la meilleure huile d'olive au monde. Et vraiment. Et tu prends ça, c'est extraordinaire, et tu n'as plus faim après jusqu'à 1h l'après-midi. Et ça fait du bien. C'est ça que je voulais donner à Brassens, parce que ma mère m'avait dit, tu sais, ma mère qui l'appelait Brassens, dit, tu sais, il faudra dire à Brassens que tu te rappelles cette femme, moi je ne me rappelais pas, moi j'étais petit, cette femme qui prenait le matin, qui avait comme Brassens cette maladie-là, qui prenait le matin une cuillère à soupe d'huile d'olive, tous les matins comme ça à jeun. Et alors je lui ai dit, ça m'aurait fait plaisir.
Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux.
c'est pas vilain, les fleurs d'automne, et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Viens encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier. Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise gémir n'est pas de mise. Ô marquise, la mer en vous comme un cadeau et dans vos vagues enveloppées, tandis que de vos doigts glacés vous m'inventez sur un seul mot. Oh, ma frégate des hauts fonds, petite frangine du mal, remettez-vous de la passion, venez que je vous fasse mal. Je vous dirai des mots d'amour, des mots de rien, de tous les jours, les mots du pire et du meilleur, et puis des mots venus d'ailleurs. Je vous dirai que je t'aimais, tu me diras que vous m'aimez, vous me ferez ce que tu peux, je vous dirai ce que tu veux, je vous dirai ce que... À 16 ans et des poussières à nous deux, ça fait des années que je prépare ma galère à te ramer, à t'affoler. Voilà que tu cherches ton bien dans les vitrines de ma nuit. Achète-moi, je ne vaux rien, puisque l'amour n'a pas de prix. Comme une louve sous son loup, quand je vous ferai des petits, vous banderez vos yeux jaloux avec un loup de satin gris. Tout comme aigri le jour qui va, petite sœur, écoutez-moi, comme un bateau entre mes doigts, vous coulerez, je vous le dois, vous coulerez, je vous... Si la mort avait ton regard, je meurs ce soir sans regarder et te demanderai ma part au bord du vide et des baisers. L'amour, ça ne meurt que la nuit, alors habille-toi en moi avec un peu de rouge aussi, j'aurai ta mort entre mes bras. Lorsque vous me mettrez en croix dans votre forêt bien apprise, c'est que je boirai tout en bas la sève tant et tant promise. Je vous engouffrerai de sang pendant que vous serez charmé, et je vous donnerai l'enfant que vous n'avez jamais été, que vous n'avez jamais. Je vous aime d'amour. Je vous aime d'amour. Thank you.
les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours. Et nous serons morts, mon frère. Nous aurons eu la mauvaise partie. Oh, les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Les soldats seront trouvés à nous. Mais nous serons morts, mon frère. Ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les boulots. Et nous serons
c'est ce qui manque dans ce monde. C'est ce qui manque.
L'intelligence. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.
d'automne, l'hiver, printemps trempé de boue, endormeuse saison, je vous aime et vous loue, d'envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau d'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau dans cette grande plaine où l'automne froid se joue, où par les longues nuits la girouette s'enroue, mon âme mieux qu'au temps du tiède renouveau ouvrira largement ses ailes de corbeau. De choses funèbres et sur qui dès longtemps descendent les frimas au blafard de saison, reine de nos climats, que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres, si ce n'est par un soir sans lune, deux à deux, la douleur sur un lit hasardeux.
La tête prise sous ton casque, soleil de cuivre et de torpeur, de tes sorciers j'ai mis le masque et la cuirasse de sueur. Avec les gongs et les totems, les balanciers, les carillons, tu fais grincer tous tes emblèmes dans mon sang en ébullition. Sur le parvis de ton église, Dieu de ma soif, soleil cura, la terreur sacrée paralyse la cible de tes archers noirs. Les ardés de fièvre et de sel, j'entre dans ta jungle interdite, dans la fournaise originelle où les apparences s'effritent. Les jaguars montent dans mes nerfs, tu me poivres de maléfices, soleil tétise, on t'étorchère sur un treillis de cicatrices. Le coup tranché au couperet de guillotine de chaleur, je m'écroule dans les genêts avec la meute des couleurs. Sonne le tocsin des mirages, du délire des corps incendiés, aiguise hypnotise et saccage, soleil barbare au négrier.
Et qui me dit un roi, c'est celui qui a sous son doigt des enfants comme autant de petits pois. Ils sont la vie, le vent, enfin ils sont la joie. J'ai peur du gars d'en bas qui mange avec ses doigts. Il m'apporte des dates et même si j'en voulais pas, il me dit c'est laïd et quand c'est laïd dans ce doigt, me donner ce connard. Ils me disent arwa, je sens que c'est pas du patois. J'ai peur ces gens qui rotent, les voilà qui me tutoient. Il y a ceux qui me disent quand t'es chez moi, t'es chez toi. Ouais mais là t'es chez moi, alors tu rentres chez toi. Le paranoïa. Thank you.
Oui, eh bien, bonjour à toutes et à tous, et particulièrement à nos auditeurs de Fleury-Mérogis. Lisez, lisez toujours. Ouvrons-nous l'esprit par le livre et rejetons les dogmes. N'oublions jamais la devise de la Fédération anarchiste, ni Dieu, ni maître. Et n'oublions pas non plus notre auditrice de France Agrimer. Il est 17h, nous sommes le mercredi 24 juin 2026. Nous nous retrouvons pour une émission enregistrée. J'ai eu des contraintes professionnelles, ça peut arriver. 1h30 de partage de livres. 1h30 de jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Dominique, Francis et aujourd'hui notre invité Anne Desfarges, maître de conférences en histoire et civilisation allemande à l'Université de Besançon. Très récemment, elle a publié aux éditions Atland un ouvrage intitulé « Allemagne 1918-1923, leçon d'une révolution fusillée ». N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire à Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Il suffit de nous proposer par exemple des livres et je suis sûr que certains, certaines d'entre nous en parleront. Démarrons sans tarder car l'entretien avec Anne Desfarges est assez long car il porte sur une période de l'histoire qui est un peu oubliée et nous n'avons pas voulu écourter cet échange, on l'entrecoupera de musique. Pour alimenter le débat, c'est toujours, vous savez bien, la première partie de notre émission. Et pour alimenter le débat, eh bien, intéressons-nous à la justice. Intéressons-nous à la justice en Italie, car la justice, officiellement, c'est le respect des femmes et des hommes. Et c'est Dominique qui ouvre la danse avec le livre de Roberto Saviano, Giovanni Falcone, aux éditions Gallimard, en 2025. Et après, sans transition, nous écouterons la musique du film Italia d'Ittore. Ça vous fera plaisir parce que c'est une musique que je trouve assez intéressante.
Je vais vous présenter le dernier livre de Roberto Saviano sur Giovanni Falcone, publié chez Gallimard en 2025, traduit par Laura Brignon. Tout le monde connaît l'auteur de Gomorra sur l'empire de la Camorra à Naples. Il vit désormais sous protection policière depuis le livre Gomorra. Puis alors le dernier livre qui vient ne va pas arranger sa situation.
Alors c'est quoi? C'est une biographie du juge Falcone?
Oui, alors ce n'est pas une simple biographie. C'est l'histoire d'une île, la Sicile, soumise à la pauvreté et à la violence avec son réseau dense de clans mafieux. C'est l'histoire des nombreux juges, policiers, gardes du corps, personnalités politiques qui sont morts pour avoir lutté contre la mafia. L'auteur écrit « Quiconque s'en mêle meurt, on peut tracer des croix sur les fauteuils des juges du tribunal de Palerme ». 71 courts chapitres, datés et localisés, s'enchaînent pour retracer le fil des événements de 1982 à 1992.
C'est presque un drame antique.
Oui, parce qu'on se doute de la fin de M. Falcone. C'est un homme déterminé à obtenir justice et à faire tomber la mafia au péril de sa vie. Assiégé par de sombres présages, énoncés par le cœur de ses collègues assassinés avant lui. La liste est longue. Un magistrat, Terranova, des juges comme Rocco Cinici ou encore le commissaire Boris Giuliano, le président du conseil régional, le général Della Chiesa, préfet de Palerme, mais aussi un député, membre du PCI, qui, en plus, la mafia se fait signe par des faux groupes prolétariens organisés. Parce que le député travaillait sur la confiscation des biens des mafiosi. Oui. Les attentats contre les personnalités sont appelés « crimes exquis ». C'est pas nouveau, hein, ils ont commencé en 1893 avec l'assassinat du maire de Palerme. Oui. Et donc, on voit Falcone comme un Sisyphe intègre qui n'avance que par la force de l'idéal et qui est animé par un sens profond de l'État.
Alors, la mort, parce qu'il est toujours vivant, mais la mort est très présente.
Oui, alors Saviano écrit « Il y a un tribunal des vivants qui ralentit la justice, il y a un tribunal des morts qui n'a pas reçu justice. Les morts sont aussi dans les camps adverses de la mafia, c'est-à-dire que la mafia, ils se tuent entre eux.
Oui, par exemple, il y a Totorine.
Oui. Bon, par exemple, il a ordonné la mort de 16 membres d'une famille, y compris au Brésil et aux États-Unis. On n'hésite pas à tuer femmes et enfants. On apprend aussi le cursus vitae de Toto, pauvre agriculteur à Corleone qui a vu sa famille sauter sur une bombe de la guerre. Donc au tribunal, il invoque toujours ce passé terrible.
Et puis il y a Tommaso Busquet. Hein.
Oui, ce sera le premier repenti, ouais. Issu d'une famille aussi pauvre de 17 enfants, donc 4 enfants disparus par la volonté de Toto. Alors quand les enfants disparaissent, on appelle ça le système de fusil de chasse blanc.